de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Erdogan impose 7 jours de deuil national après le tremblement de terre en Turquie. L'ambassade d'Indonésie à Ankara a déclaré qu'un certain nombre de citoyens indonésiens qui avaient disparu en Turquie étaient toujours cherchés. Thaïlande accueille le premier groupe de touristes chinois après 3 ans. Le ministère des Finances qualifie le déficit budgétaire et le ratio d'endettement de l'Indonésie d'assez bon dans le monde. Indonésie et 4 pays ont proposé le kebaya au PCI UNESCO. Commandant de la région militaire Makassar, Panda Masanuddin et l'attaché de l'armée australienne discutent de la gestion des catastrophes. Et Kapolri collabore avec les pays de l'ASEAN pour éradiquer la corruption. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle incomplète. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré 7 jours de deuil national à la suite d'un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué les régions du centre et du sud-est de la Turquie ainsi que la partie nord de la Syrie qui borde la Turquie. Sur son compte Twitter, @RT Erdogan, Erdogan a déclaré que le drapeau national flotterait en berne jusqu'au lever du soleil le dimanche 12 février 2023 dans tous les coins du pays et des représentants étrangers de la Turquie. Le nombre de morts d'un tremblement de terre peu profond centré sur la terre, pour être précis, dans le district de Pazartik dans la province de Karaman Maras aux premières heures de lundi, heure locale, a continué d'augmenter. La page du quotidien Hurriyet avance le chiffre de 3 419 morts à la suite du tremblement de terre qui a secoué le sud du pays qui s'étend sur 2 continents. Ce puissant tremblement de terre a secoué plusieurs provinces de Turquie, de Syrie et du Liban. Ce tremblement de terre a été suivi d'une série de répliques dont certaines avaient une magnitude de 7,6 ou presque la même que la force du tremblement de terre principal. L'ambassade d'Indonésie, KBRI, à Ankara est toujours à la recherche d'un certain nombre de citoyens indonésiens qui ont perdu le contact avec la Turquie après le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi 6 février. L'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Ankara avait identifié 10 citoyens indonésiens blessés, dont 4 avaient été soignés dans un hôpital local, tandis que les 6 autres devaient être évacués vers Ankara. Iqbal, en conférence de presse virtuelle à Jakarta, a expliqué mardi: « Une mère de 2 enfants que nous n'avons pas pu contacter jusqu'à présent. » En dehors de cela, l'ambassade d'Indonésie tente toujours de trouver 2 thérapeutes du spa à Diyarbakir, qui jusqu'à présent n'ont pas répondu lorsqu'ils ont été contactés. L'ambassade d'Indonésie continue de se coordonner avec les autorités locales, soutenues par la recherche dans les notes de la communauté indonésienne et le groupe de travail local sur la protection des citoyens indonésiens pour trouver où ils se trouvent. 3 ans après la pandémie, le premier groupe de touristes en provenance de Chine est arrivé à Bangkok en Thaïlande lundi 6 février, accueilli avec des bouquets de fleurs qui pourraient simuler la reprise du secteur touristique vital de la Thaïlande. Tôt lundi, heure locale, des responsables de l'autorité thaïlandaise du tourisme et de l'ambassade de Chine en Thaïlande ont accueilli les 2 premiers groupes de touristes composés d'environ 20 touristes chacun en provenance de Huangshu à l'aéroport international Don Moyen. À partir de lundi, la Chine a repris les voyages de groupes à l'étranger vers 20 pays, dont la Thaïlande, les Maldives, les Émirats arabes unis, la Russie et la Nouvelle-Zélande. Les touristes chinois représentent une partie importante du secteur touristique thaïlandais, contribuant jusqu'à 1/5 du produit intérieur brut PIB du pays. Le directeur général du financement et de la gestion des risques du ministère des Finances de la République d'Indonésie, Suminto, a déclaré que les déficits budgétaires et le ratio d'endettement de l'Indonésie se situent dans un groupe assez bon dans le monde. Suminto a déclaré lors de l'audition en ligne de la commission 9 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie, DPR, à Jakarta mardi, que pendant la pandémie de COVID-19 en 2020-2022, la performance du budget des recettes et des dépenses de l'État indonésien APBN était tout à fait adéquate. Eh bien, le déficit budgétaire peut être maîtrisé après un déficit de 6,5% du produit intérieur brut PIB en 2020-2022, le déficit du trésor public baissera considérablement à 2,38% du PIB, soit bien moins que dans de nombreux autres pays. Suminto a déclaré qu'avec la performance relativement bonne du budget de l'État, le ratio de la dette au PIB de l'Indonésie est encore assez bon par rapport à de nombreux autres pays. Le ratio dette au PIB de l'Indonésie est enregistré à 39,57% en 2022. L'Indonésie, Singapour, la Malaisie, le Brunei Darussalam et la Thaïlande ont proposé le kebaya sur la liste du patrimoine culturel immatériel, PCI, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Les 5 pays d'Asie du Sud-Est qui reconnaissent le kebaya comme un vêtement traditionnel féminin ont proposé par le biais d'un mécanisme de nomination conjoint. Le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid, a déclaré mardi à Jakarta que le processus de proposition commencerait lorsque le premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri rencontrerait le président Joko Widodo à Jakarta en 2021. Hilmar a expliqué que la rencontre entre le président Jokowi et le premier ministre malaisien de l'époque ont discuté de propositions conjointes pour plusieurs héritages, une culture immatérielle qui a une histoire, dont l'une est le kebaya. Il a déclaré qu'après discussion, il avait été convenu d'inviter d'autres pays membres de l'ASEAN, qui ont également une tradition de kebaya, à se joindre à la nomination avec ces kebaya. Le commandant de la région militaire Makassar, ou Pandam 16, le général Toto Imam Santoso et le colonel attaché terrestre australien Stephen Daly ont discuté des plans de gestion des catastrophes naturelles et d'autres scénarios liés au traitement des citoyens australiens dans la région de commandement de région militaire 16, Hassanuddin. Toto, en marge de la réception de la visite de l'attaché terrestre australien avec son entourage au commandement du commandement militaire de Makassar, a déclaré mardi que le 16e commandement militaire avait reçu la visite de l'attaché terrestre australien pour discuter de la coopération et renforcer les relations entre les pays au sein du champ d'application de l'armée en particulier, y compris les plans de gestion des catastrophes naturelles. Toto a déclaré que c'était un honneur pour le commandement militaire régional 16, CODAM 16, de recevoir la visite de l'attaché de l'armée australienne pour renforcer les relations et accroître la coopération à la fois entre les pays et dans le cadre de l'armée en particulier. Le but de la visite, a déclaré Stephen, était d'examiner et d'affiner les réponses concernant les plans de gestion des catastrophes naturelles et d'autres scénarios qui pourraient nécessiter l'évacuation des citoyens australiens qui se trouvent dans la zone du 16e commandement militaire de Makassar, Hassanuddin. Le chef de la police nationale indonésienne, le général Listio Sigit Prabowo, a déclaré que son parti travaillait avec la police des pays membres de l'ASEAN pour rechercher des fugitifs dans des affaires de corruption. Le chef de la police nationale du palais d'État de Merdeka à Jakarta a déclaré mardi que la coopération avec plusieurs pays de l'ASEAN pour faciliter la recherche des auteurs était menée dans le cadre d'un programme de la police à police. Listio Sigit Prabowo a ajouté que son parti se rend actuellement dans plusieurs pays de l'ASEAN. Il espère que cette étape permettra d'attraper plus facilement les corrupteurs qui ont fui à l'étranger, en particulier les pays qui peuvent établir une coopération de police avec l'Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Gouvernement indonésien n'a jamais reculé devant l'éradication de la corruption ». Vous êtes avec moi, Audrey. Ce jour tard, le président indonésien Joko Widodo a souligné que l'engagement du gouvernement à éradiquer la corruption n'a jamais faibli. Selon lui, les efforts de prévention se poursuivent également en construisant un système gouvernemental et des services publics transparents et responsables. Le président Joko Widodo l'a transmis directement dans un communiqué de presse au Palais d'État Merdeka à Jakarta le mardi 7 février 2023, qui a également été diffusé en direct sur le compte YouTube du secrétariat présidentiel. Dans sa déclaration, le chef de l'État a également rappelé aux reins de l'appareil judiciaire de faire respecter la loi le plus équitablement possible, sans discernement et sans discrimination. Il a déclaré que le gouvernement n'interviendrait pas dans l'application de la loi. L'éradication de la corruption est un gros travail pour l'Indonésie. Malheureusement, en se référant au rapport de Transparency International, l'indice de perception de la corruption en Indonésie a été enregistré à 34 points sur une échelle de 0 à 100 en 2022. En baisse de 4 points par rapport à 2021, ce rapport indique que la perception publique de la corruption dans les postes publics et politiques en Indonésie baisse en 2022. Bien sûr, c'est un record qui mérite une plus grande attention. Le président Joko Widodo a déclaré que l'indice de perception de la corruption qui a été publié il y a quelques jours est devenu une contribution pour le gouvernement et aussi pour les responsables de l'application des lois pour s'améliorer. Pour l'Indonésie, éradiquer la corruption est un devoir commun. En effet, il y a ceux qui obtiennent la part et ont une grande autorité pour la compléter, à savoir la Commission d'éradication de la corruption, la police et le bureau du procureur général. Mais comme travailler ensemble, éradiquer la corruption est la responsabilité de chacun. Chaque parti doit s'améliorer pour que le grand travail d'éradication de la corruption de ses racines puisse être couronné de succès. En outre, comme l'a déclaré le président Joko Widodo en tant que président de l'ASEAN, l'Indonésie est déterminée à renforcer son engagement à éradiquer la corruption et à faire respecter la loi dans la région. Cet engagement doit bien sûr se concrétiser dans une stratégie forte de prévention et d'éradication. Selon le président, pour l'instant, il y a au moins un certain nombre de choses qui doivent être prioritaires, à savoir poursuivre les corrupteurs, faire respecter la loi sans discrimination et la tolérance zéro pour les corrupteurs. Ce qui n'est pas moins important, c'est que tous les Indonésiens doivent avoir une culture anticorruption. Parce que prévenir et éradiquer la corruption n'est pas seulement un objectif et une responsabilité dans une période, mais doit être fermement ancré de manière durable pour rendre l'Indonésie développée et prospère. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 février 1942, la ville de Banjarmasin est incendiée. Après la défaite des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon entre dans le sud du Kalimantan le 6 février 1942. Le 8 février 1942, trois navires hollandais entrent à Banjarmasin pour transporter tous les Néerlandais qui sont évacués vers l'île de Java. Les Néerlandais ont ensuite mis en œuvre la politique de la terre brûlée en formant une force spéciale de destroyers appelée Algemeen Vernieling Corps ABC. L'objectif était que les bâtiments et installations existants à Banjarmasin ne soient pas utilisés par les Japonais. Banjarmasin a été transformée en mer de feu par des explosions de dynamite. Des émeutes éclatent à cette époque. Des entrepôts, des maisons et des bureaux hollandais ont été pillés, y compris des magasins et le grand hôtel. Passons maintenant à l'événement du 8 février 1993, l'accident d'avion en Iran. Un avion Tupolev Tu-154 appartenant à l'Iran Air Tour et un avion Sukhoi Su-24 appartenant à l'armée de l'air iranienne sont entrés en collision dans les airs près de Quds en Iran le 8 février 1993. L'incident a tué les 133 personnes à bord des deux avions. L'autorité de l'aviation civile iranienne a conclu que la cause de la collision était une erreur du pilote militaire du Sukhoi Su-24 et une erreur des contrôleurs aériens. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 février 2005, l'annonce de l'arrêt des violences israélo-palestiniennes. Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Ariel Sharon, dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte, ont annoncé le 8 février 2005 un accord pour mettre fin à 4 années de violences au Moyen-Orient. Abbas a déclaré que l'accord conduirait à une nouvelle ère de paix et d'espoir. Pendant ce temps, Sharon a juré d'arrêter l'action militaire contre des cibles palestiniennes après que le groupe militant ait arrêté la violence. Leurs discussions ont été approfondies, couvrant des accords concernant la libération des prisonniers palestiniens et la remise de 5 villes de Cisjordanie aux autorités palestiniennes. Il s'agissait de la rencontre au plus haut niveau entre les deux parties depuis le début de l'intifada palestinienne 4 ans plus tôt. Chers auditeurs, c'était l'histoire de Zoukri pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, avec une croissance supérieure à 5%, l'industrie manufacturière contribue largement à l'augmentation de la performance économique. L'industrie de transformation non pétrolière et gazière a connu une croissance impressionnante de 5,01% tout au long de 2022, au plus que la réalisation en 2021 de 3,67%. Le secteur industriel est le principal soutien de la croissance économique nationale qui atteint 5,31% en 2022. C'est le rapport du ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, qui a été publié sur le site internet du ministère de l'Industrie lundi, le 6 février dernier. Agus Gumiwang a déclaré que la performance positive de l'industrie manufacturière était conforme à plusieurs indicateurs tout au long de 2022, entre autres l'indice de confiance industrielle, IKI, l'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier indonésien qui étaient tous deux à des niveaux élevés. Le ministère de l'Industrie a publié les résultats de l'IKI en janvier 2023 en position de 51,54, soit une augmentation par rapport à l'IKI de décembre 2022 qui a touché le niveau de 50,9. Pendant ce temps, SEP Global a indiqué que le PMI manufacturier indonésien en janvier 2023 était de 51,3, une augmentation par rapport à décembre 2022 à 50,9. Agus Gumiwang a souligné que le gouvernement reste anticipatif et prépare diverses politiques stratégiques pour accélérer la croissance économique nationale. L'un des objectifs est de développer le secteur de l'industrie manufacturière pour qu'il soit plus productif et innovant. Il a ajouté que le gouvernement est également déterminé à devenir un acteur mondial clé pour l'industrie navale basée sur les matières premières. Le gouvernement concentre sur l'industrie navale des produits de base en trois groupes, à savoir les agro-industries telles que l'industrie oléochimique, les industries basées sur les matériaux miniers telles que l'industrie des fonderies de minéraux et de métaux, et les industries basées sur le pétrole, le gaz et le charbon, tels que le projet charbon-méthanol. D'après les données de l'Agence centrale des statistiques, BPS, les trois secteurs manufacturiers qui sont devenus une source de soutien économique sont l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du matériel de transport et l'industrie des métaux de base. Le ministre Agus Gumiwang a souligné que le gouvernement est déterminé à renforcer le secteur en aval de l'industrie manufacturière, les exportations et à augmenter le taux d'absorption de la main-d'œuvre. Serge Littor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kamu katakan semuanya.
Change de guitare, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
L'île de Gangga est une île du nord de la résidence de Minahasa, dans le nord de Sulawesi. Cette île est une île habitée et il y a deux villages, à savoir le village de Gangga Ang et aussi le village de Gangga Do. La plupart des habitants de cette île travaillent comme pêcheurs et gardiens de cette île. Comme tenue, de l'île de Gangga a une beauté à ne pas manquer. Elle est toujours belle et naturelle. En effet, cette île n'est pas aussi populaire que l'île de Bunaken, mais sa beauté sous-marine ne vous décevra pas. C'est ce qui fait finalement que l'île de Gangga est visitée par de nombreux touristes de diverses régions, surtout pour les touristes qui aiment la plongée. Ces divers récifs coralliens avec divers types de vie marine font de son charme sous-marin l'attraction principale. Chers auditeurs, en plus de sa beauté sous-marine, l'île de Gangga, qui a une superficie de 14,65 km², est également entourée de sable blanc et de mer claire, ce qui rend cette île si enchanteresse. En bordure de la plage, de nombreux cocotiers donnent un aspect ombragé à ce bord de plage. Peu de gens connaissent cette île, vous pouvez donc toujours ressentir son caractère naturel. Diverses activités peuvent être pratiquées pendant vos vacances sur l'île de Gangga, comme l'installation d'un hamac au milieu des cocotiers, la baignade ou la plongée en apnée. La beauté du parc marin appartenant à l'île de Gangga ne peut être manquée. Beaucoup disent que cette île est l'endroit le plus préféré pour la plongée. Vous pouvez profiter de diverses vies marines et des récifs coralliens directement en faisant de la plongée en apnée ou en plongée. Pour ceux d'entre vous qui ont un hobby de photographie, des activités de photos sous-marines peuvent être faites pour obtenir un travail satisfaisant. Ici, vous pouvez également faire des activités de pêche. L'île de Gangga est un lieu de chasse aux poissons. Il y a une grande quantité de poissons. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Cemanya bergaya. dirimu sendiri.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Itu restaurantnya. Itu restaurantnya. C'est le resto. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Itu restaurantnya. Itu restaurantnya, c'est le resto. Cette conversation se déroule entre le touriste indien Dev et un réceptionniste d'hôtel. Le réceptionniste montre à Dev où se trouve le restaurant. Dev. Restaurantnya ada di lantai ini. Restaurantnya ada di lantai ini. Réceptionniste. Ya, ya, itu restaurantnya. Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous donner et introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Itu restaurantnya. Itu restaurantnya. C'est le restaurant. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Itu. Itu. C'est. Restaurantnya. Restaurantnya. Le restaurant. Itu restorannya. Itu restorannya. C'est le restaurant. Dans la conversation, vous avez entendu l'expression itu restaurannya. Itu restaurannya. C'est le restaurant. Dans l'expression, il y a le mot itu. Itu. Ça ou c'est. Qui est suivi de la phrase restaurannya. Restaurannya. Le restaurant. Comme quelque chose que le réceptionniste désigne pour indiquer quelque chose qui est relativement éloigné de l'interlocuteur, vous pouvez utiliser le mot itu. Itu. Ça ou c'est. Suivi d'un mot ou d'une expression qui exprime ce qui est montré. Par exemple, restaurant, restaurant, restaurant. Le mot itu, itu, peut aussi être placé à la fin d'une phrase qui a le même sens, qui indique quelque chose qui est loin du locuteur. Maintenant, écoutons les exemples de phrases suivantes pour montrer quelque chose. Itu koper saya. Itu koper saya. C'est ma valise. Koper saya itu. Koper saya itu. Ah, c'est ma valise. Chers amis, pour montrer poliment quelque chose, les Indonésiens utilisent généralement leur main droite avec une paume ouverte. Le geste est généralement effectué en disant l'expression. Serge Ami, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Def. Restorannya ada di lantai ini? Restorannya ada di lantai ini. Resepsionis. Ya, ya, itu restorannya. Bon, cher Jeter, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Manado intitulée Arang Tampurung. Chers amis, la chanson Arang Tampurung est l'une des chansons les plus populaires de Manado et beaucoup la reprennent sur YouTube. Les paroles parlent d'une personne dont le cœur est brisé par son amant. Il s'avère que son amant l'a choisi uniquement pour venger les actions des autres. Il considérait le cœur de son amant plus noir que le charbon de noix de coco. Bon, chers auditeurs, voici Gunawan va chanter une chanson intitulée Arang Tampurung. Arang Tampurung. Bonne écoute.
Bikin kita begini, berpidi sekali kita ada rasa cinta yang nyanada kasih. Jangan dong sayang, ngana sesama kita dan orang lain yang dulu pernah dah bikin hancur ngana bermimpi-mimpi. Ya bara. Pipiris sekali kita ada rasa cinta yang anada.
kotor nyana pe cinta itang itang arang tamburung lebe itang nyana pe hati kotor kotor abu dorika lebe kotor nyana pe cinta itang itang arang tamburung lebe itang nyana pe hati.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.